Dans ce journal, on parlera de décolonisation, de déontologie, du relais entre Paris 2024 et Tahiti 2027, de la Nouvelle-Calédonie avec la visite éclair du président Macron et de sport. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence donc par le retour de Tony Giros de Caracas.
Le président de l'Assemblée assistait pour la première fois au séminaire régional du comité spécial des 24. Première étape de l'élaboration de la résolution sur le statut de la Polynésie française, qui sera présentée à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais désormais, Tony Giros souhaite impliquer davantage les Polynésiens en mettant en place des discussions avec la société civile pour faire avancer leurs réflexions sur le processus de décolonisation.
Ce qui est important maintenant, c'est d'orienter la démarche locale vers la mise en place d'une table de discussion au cours de laquelle le dialogue va s'installer. Parce qu'il faut vraiment dissocier le dialogue institutionnel, c'est celui qui porte sur le contrat de développement, de transformation, les contrats cadres au titre de l'éducation, du social, etc. Ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le dialogue dont on parle.
Alors la France était présente, représentée par l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Nos rapports ont été assez froids, mais chacun a pu placer ce qu'il a voulu placer, a dit Tony Giros. Comprendre, pas de changement à attendre dans la position de la France.
On parle déontologie à l'Assemblée.
Les représentants avaient 2 jours pour mieux comprendre la déontologie parlementaire et prévenir les conflits d'intérêts. Des experts de France et du Canada étaient présents à ce séminaire organisé mardi et mercredi à l'Assemblée. Les représentants ont donc assisté à des tables rondes, des échanges et des conférences. Il n'est pas toujours facile pour les élus de répondre à certaines obligations. Certains sont désarçonnés, selon Tony Giros, qui souhaite leur faire comprendre l'importance de la transparence, notamment sur leur patrimoine. Objectif du président, c'est aussi de créer un code déontologique qui viendra enrichir le règlement intérieur. Mais le travail ne fait que commencer.
La première étape a été celle d'informer les élus à travers ce séminaire. La deuxième que nous allons démarrer demain matin, c'est de décrire la structure du code de déontologie. La troisième, dans les mois qui viennent, en tous les cas, je l'espère, avant la fin de la session, le 9 juillet, va être d'officialiser le comité de déontologie. Et la dernière étape va être le choix du déontologue qui va venir nous accompagner dans cette entreprise.
Assiduité, dignité, exemplarité, honnêteté, probité, objectivité et sagesse sont les principes qui doivent guider les élus. Et la déontologie est là pour les guider dans la mission d'intérêt général face à l'intérêt privé, comme l'explique Christophe Palaise.
C'est une position très difficile. On est à la croisée de toutes les influences et il faut savoir garder une certaine distance à l'égard de ces influences. Ça n'est pas facile. Et d'ailleurs, on ne demande pas aux élus d'être totalement objectifs et impartiaux. Ils ont leur parti pris politique. Ils ont leurs convictions et ils doivent les défendre. Ce qu'on leur demande, c'est quand même l'honnêteté.
L'ancien référent déontologue de l'Assemblée nationale qui remplit aujourd'hui la même fonction auprès de plusieurs collectivités d'Île-de-France était au micro de Caroline Perdry.
Paris 2024 et Tahiti 2027 en mode relais, Lucie.
La passation se prépare entre les deux organisations qui ont signé hier une convention. L'idée, faire profiter les Jeux du Pacifique de l'expérience acquise de Paris 2024, mais également du matériel, gratuitement ou à bas coût, ou encore de faciliter des recrutements d'ex-salariés. Des membres du comité 2027 sont déjà intégrés à celui de Paris 2024 pour certaines réunions ou événements et certains assisteront même de l'intérieur à l'épreuve de Théa Houpeau afin d'assurer un transfert des connaissances et des savoir-faire comme l'explique Noéline Parker.
On est conscient aussi que les Jeux du Pacifique n'ont pas le même niveau d'exigence, mais la manière de travailler, l'expertise que l'on peut en retirer en matière de préparation, en matière de planification, en matière de communication, en matière de gestion des données, des bases de données, etc. Voilà quelque chose sur lequel on a besoin, nous aussi, d'apprendre et d'ouvrir nos horizons.
La présidente du comité Tahiti 2027 précise que des passerelles vont également être mises en place côté salariés, avec une priorité à ceux de Paris 2024 pour intégrer Tahiti 2027, des gens qui auront acquis une belle expérience, logique donc d'en récupérer pour Noéline Parker, qui espère même, grâce à cette alliance, créer pourquoi pas une plateforme d'événementiel.
Je pense que ce qui est intéressant ensuite à terme, c'est de se dire il y a 2027, mais pourquoi pas pour le pays aller chercher d'autres événements pour devenir une plateforme peut-être d'événementiel à notre taille, bien sûr, mais sur lesquels l'expertise de la Polynésie va continuer à s'accroître dans ce domaine-là.
Des propos recueillis par Charlie René.
Et du côté de la Nouvelle-Calédonie, cette visite éclair qui s'achève.
Emmanuel Macron avait décidé de s'y rendre hier au 10e jour des émeutes violentes qui secouent Nouméa. Une visite éclair puisque le chef de l'État a débarqué à midi, heure de Tahiti, à l'aéroport de la Tontouta, avec un aéropage de ministres, conseillers et autres techniciens de l'Élysée. Son avion est reparti dès cette nuit. La question, c'est bien sûr celle-là, Charlie Régnier. Est-ce que cette visite a vraiment servi à quelque chose ?
Eh bien, elle a servi avant tout à marquer le coup, Lucie. Il faut dire que ces émeutes qui ont déjà fait 6 morts, c'est du jamais vu au moins depuis les années 80. Un mouvement d'insurrection absolument inédit a commandé le président de la République, qui est surtout venu rassurer les Noumains, pour beaucoup bloqués chez eux depuis plus d'une semaine. Le retour au calme, la levée des barrages, la libre circulation doit se faire le plus vite possible. Voilà ce qu'il déclarait à la sortie de l'avion et ce qu'il a répété avant d'y remonter. Entre les deux, Emmanuel Macron a multiplié les rencontres avec les différentes institutions calédoniennes, les élus locaux de tous bords et des représentants du monde économique. Des discussions donc, mais au final assez peu d'annonces. L'Élysée ne veut pas faire passer en force, je cite, la réforme sur le corps électoral, dont le vote à l'Assemblée a mis le feu aux poudres. Mais en même temps, le chef de l'État n'annonce pas son retrait, seulement un délai de quelques semaines pour permettre aux indépendantistes et loyalistes de discuter. Rien de nouveau de ce côté-là, donc. Quelques annonces aussi sur l'économie, avec une aide d'urgence de l'État pour faire face aux dégâts jugés colossaux des émeutes. Il s'agirait de pouvoir payer les salaires, pallier aux problèmes de trésorerie des entreprises, accélérer les remboursements d'assurance et accompagner la reconstruction avec des prêts à taux zéro. C'est un peu ce que tout le monde voulait entendre, mais sans les chiffres. La vraie surprise de cette visite, Lucie, elle vient des CCAT, ces comités d'action indépendantistes accusés par Gérald Darmanin d'avoir organisé les émeutes, planifié même, voire d'être des collectifs mafieux ou terroristes. Et bien pourtant, ces porte-parole étaient bien là, en face de Emmanuel Macron hier soir. Un effort pour créer le dialogue, dit le chef de l'État. J'attends maintenant d'eux l'esprit, de même esprit de responsabilité. Fin de citation.
Merci Charlie Régnier. On vous rappelle au passage qu'environ 150 Polynésiens sont toujours bloqué sur le caillou. La demande de Moetei Broverson de pouvoir affréter un vol d'urgence comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande n'a pour l'instant pas trouvé de réponse du côté de l'État.
Et en mer, le corail va très mal.
On le savait depuis l'officialisation d'un quatrième épisode de blanchissement massif qui touche les récifs du monde entier, y compris ceux de Polynésie. Pour aider à orienter les actions de conservation ou de restauration, le CREOP de Montréal a lancé le projet Bleaching 2024 qui vise à caractériser et cartographier ce blanchissement, ainsi que la mortalité corallienne qui y est liée. L'IFRECOR, initiative française pour les récifs coralliens dotée d'un comité local polynésien, a annoncé soutenir financièrement cette étude, déjà lancée dans les îles de la Société et les Tuamotu.
On va parler de sport, Lucie, avec Pirée, ça y est, qui est en route pour la finale de la Ligue des Champions.
Jusqu'au bout du suspense, ce mercredi soir en demi-finale de la O-League. L'AS Pirée et les Fidjiens de Reva se sont jaugés pendant de longues minutes avant qu'une faute polynésienne dans la surface donne aux Fidjiens l'occasion de prendre l'avantage. 0-1 à la 35e minute de jeu. Puis c'est une autre faute, une main cette fois, qui ouvrira aux champions de Polynésie la voie des filets. Désiré Ngiamba transforme ce pénalty. Dans la foulée, c'est Reva qui égalise, toujours dans le temps additionnel et toujours sur pénalty. Il faudra donc jouer les prolongations pour voir Pirée enfin libérer son jeu et faire la différence. Un but signé de Patrick Tepa avant un but contre son camp du Fidjien Peñame Drova qui scellera le sort du match. 4-2, score final. Raimana Lifunki confie son soulagement au micro de la FTF.
Ouais, c'était très difficile. On a dû aller chercher dans nos ressources pour aller chercher cette qualification pour la finale. Et je pense qu'on a fait une belle prestation ce soir. On a devant un public qui est venu nombreux. Et franchement, on est vraiment, vraiment content de cette victoire qui nous ouvre la porte de la finale.
Et la finale aura lieu donc ce vendredi à 18h dans ce même stade à Pater. Pirée aura affaire à un adversaire bien connu, Auckland City, vainqueur des deux dernières éditions de cette O-League et 11 fois champion d'Océanie. Les Néo-Zélandais sont redoutables mais pas inaccessibles. Ils avaient concédé un nul en début de tournoi contre Reva et ne l'ont emporté que d'un but face à Magenta hier.
Et pendant ce temps-là, la Shiseido Tahiti Pro est toujours off.
Oui, vous le savez, l'étape WSL de Tea Hupo a été officiellement ouverte mardi soir avec une cérémonie au PKZ. Mais pour les organisateurs, pas question de se presser. La fenêtre de la compétition dure jusqu'au 31 mai. Et le but est d'offrir à l'élite du surf mondial les meilleures conditions dans la passe de Hawaii. Les vagues étaient un peu molles hier. Elles le sont toujours ce jeudi et pourraient commencer à se consolider demain. Mais beaucoup s'attendent tout de même à un nouveau jour off. C'est samedi et dimanche que la compétition pourrait être lancée, au moins pour le tableau féminin. Mais tout ce que le monde attend, c'est la belle houle de Sud-Ouest annoncée pour le milieu de semaine prochaine. Dans une interview à la WSL, Vahine Fiero prévenait ses concurrentes hier. Reposez-vous parce qu'un beau swell nous arrive dessus. Voilà, c'est la fin de ce journal. À noter que ce rendez-vous à 11h30 avec Edouard Fritsch, qui sera en direct sur Radio 1 et Tiers FM, et retour de l'information avec la revue de presse dans une demi-heure.
Merci Lucie, pardon. On continue avec la météo.